Ce programme vous est proposé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats.
Radio de la paix.
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission de débat public baptisée « Démocratie en progrès ». Cette émission est produite et réalisée par Radio de la Paix en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. Pour ce numéro de ce jour, nos panélistes vont se prononcer sur le thème « La tolérance interreligieuse, un atout dans la prévention de l'extrémisme violent ». Nos invités sont l'imam Kone Ibrahima et le pasteur Zunon Didier Griffith, membre de la plateforme nationale du dialogue interreligieux contre l'extrémisme, l'imam Kwasi Oufoué de la mosquée du Sac des Rails au plateau, le pasteur Akka Akmel Marcelin de la Fondation évangélique Victoire Temple LBTL et Dr. Flan Amoke César, directeur du Centre politique d'Abidjan. Ce sont ces invités qui vont partager avec nous leurs connaissances et expériences sur la tolérance interreligieuse, un atout dans la prévention de l'extrémisme violent. L'émission Démocratie en progrès est présentée par Ben Diakité, réalisation Camara Minaïfin.
Radio de la paix, se parler, s'écouter, se comprendre.
Première question, chers invités, à vous tous. Qu'est-ce qu'on doit entendre par tolérance interreligieuse? On va commencer avec vous, l'imam Oufoué Kwasi, imam donc à la mosquée du plateau, précisément au cercle des rails.
Par tolérance religieuse, c'est accepter les différences, cultiver l'éthique des divergences et accepter les croyances des autres confessions religieuses.
Avec vous, pasteur Griffith, sur la même préoccupation, qu'est-ce que vous entendez par tolérance interreligieuse?
Merci bien. La tolérance interreligieuse pour nous, c'est, comme l'a dit l'imam, c'est la diversité. Accepter l'autre et comprendre l'autre. Parce qu'avant de le fréquenter, il faut le comprendre, il faut accepter. Parce que la tolérance même contient une valeur qui est le respect. Respecter l'autre, le comprendre avant de le fréquenter pour que cette relation interreligieuse soit vraiment franche.
Avec vous, l'imam Kone Ibrahima, on va parler de l'extrémisme violent. On entend souvent ce terme extrémisme violent. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par extrémisme violent?
Merci bien, Ben Diakité. Je voudrais donc, au nom de la PND, la plateforme nationale du dialogue interreligieux, pour la lutte contre l'extrémisme violent, vous remercier. Remercier le directeur général de Radio de la Paix qui nous invite à ce débat. Alors, d'abord, il y a deux thèmes. Il y a l'extrémisme et puis il y a le violent. L'extrémisme, c'est quelqu'un qui croit qu'il doit faire quelque chose pour atteindre quelque chose. Il doit faire quelque chose pour atteindre quelque chose. Et ce qu'il doit faire n'est pas forcément religieux. Parce qu'avant d'être extrémiste, on est d'abord radicaliste. Et le radicaliste, c'est celui qui pense que les gens sont contre lui. Et lui, il voit autour de lui, tout le monde est contre lui. Donc, il veut essayer de sortir de lui. Donc, il essaie d'avoir une position. Et quand cette position, il a cette position, et qu'on n'arrive pas à résoudre son problème, qu'on n'arrive pas à lui parler, il va à l'extrême. Donc là, on dit qu'il vient extrémiste. Et l'extrémisme, donc, c'est quelqu'un qui est radicalisé, qui est devenu extrémiste. Et maintenant, quand il est extrémiste, il est encore doux, mais au fur du temps, il devient violent parce qu'il pense qu'il doit agir pour se faire comprendre.
D'accord, merci beaucoup, Imam Ibrahima Kone, de nous avoir expliqué ce rapport entre l'extrémisme et la violence. Et vous avez ajouté un autre terme qui est le radicalisme. Nous allons approfondir cela. Monsieur le révérend Akba, vous, en tant qu'homme de Dieu, cet extrémisme violent, comment vous voyez que ça se manifeste dans votre pratique religieuse de tous les jours?
Merci. La pratique religieuse de tous les jours, j'avoue ne pas avoir été confronté à cela. Mais ce que je sais et ce que je vis continuellement une fois que je regarde la télévision, une fois que j'écoute le poste radio et que on me donne des nouvelles à l'extérieur de notre pays, la Côte d'Ivoire, chaque jour, nous avons des actes de violence dus au fait que certaines personnes, sur la base de leur foi, sont obligées de perpétrer contre d'autres personnes qui ne sont pas forcément des religieux, mais qui sont parfois des civils quand nous regardons en Europe. Ce que je sais, c'est que c'est dû au fait surtout qu'ils n'ont pas appris à connaître les autres et ils se sont cantonnés sur ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent faire. Et cela a abouti à l'extrémisme, et cet extrémisme est toujours violent.
Docteur Flore Moké, vous êtes universitaire, vous avez beaucoup travaillé sur cette thématique de lutte contre l'extrémisme violent. Pourquoi on ajoute le thème violent dans l'extrémisme? Ça rime très souvent avec la violence. Et tout à l'heure, l'imam Kone Brahima, président donc de la plateforme hein, du forum des religieux contre l'extrémisme violent, a utilisé aussi le mot radical. Alors, quelle est la place également de ce mot par rapport à l'extrémisme et la violence?
Merci Ben Diakité de m'associer à ce moment d'échange.
Le radicalisme, c'est adopter une position extrême aussi. Donc, l'extrémisme et le radicalisme, ça va de pair. Et le radicalisme, c'est le fait d'adopter une position extrême dû au fait que l'individu, à un moment donné, traverse certaines périodes. L'extrémisme peut être politique, il peut être religieux, il peut être culturel, il peut être identitaire. Et donc c'est une phase de transformation, c'est une phase d'aboutissement à partir d'un processus de transformation de l'individu ou bien du groupe.
Chers invités, hein, la question est posée à vous tous. On a vu que la Côte d'Ivoire, malheureusement, a connu une certaine période des attentats, notamment il y a eu l'attentat de Grand Bassam. Après, il y a eu également Kafolo. Des actes qui ont été posés malheureusement par des individus qu'on avait taxés d'extrémistes. Pourquoi on utilise la religion, on met en avant la religion pour perpétrer ces actes violents? Donc je vais permettre au président Kone Brahima, pourquoi la religion est le manteau que les gens portent pour poser ces actes-là?
Merci beaucoup Ben pour cette question. Je pense que c'est parce que les gens n'ont pas la foi en Dieu. Parce que Dieu a dit dans le Saint-Coran, dans la Bible, dans la Torah, connaissez-moi avant de m'adorer. C'est lié un peu à l'intolérance interreligieuse. Donc je vais revenir un peu bien sur la tolérance. Dieu nous dit dans la sourate verset 256 du Saint-Coran, il dit « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin se distingue de l'égarement. » C'est-à-dire la vérité se distingue de l'erreur. Mais Dieu lui-même qui nous a créé, qui a créé la terre et tout son contenu, il nous a envoyé trois religions, trois grandes religions. Les trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, donc à des périodes bien précises. Et l'islam, donc, est le clou de toutes ces religions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui pratiquent la voie judaïste, ceux qui pratiquent la voie chrétienne, ceux qui pratiquent la voie musulmane, est-ce qu'ils sont vraiment croyants? Est-ce qu'ils veulent croire vraiment en Dieu? Parce que toutes ces religions, c'est-à-dire combattent la violence sous toutes ses formes. Aucune de ces religions n'accepte la violence. C'est tous des religions de paix. Mais malheureusement, pourquoi aujourd'hui, les gens prennent ces religions comme parapluie pour manifester? Ce que je veux dire, c'est que tous ceux qui se manifestent, ils ne croient pas en Dieu. Parce que si on croit en Dieu, on ne va jamais faire du mal. Parce que Dieu a dit aussi dans les trois écritures saintes que je viens de dire, ôter la vie à un individu, c'est ôter la vie à toute une nation, à tout le monde entier. Donc la vie est sacrée. La vie est sacrée. La vie est sacrée. C'est ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire a compris. Et dans la constitution de la Côte d'Ivoire, la vie est sacrée. Yep. Donc on ne peut pas s'attenter à la vie de quelqu'un. Donc ceux qui prennent le manteau religieux pour le faire, c'est pas des religieux. Et ils ne le font pas à des buts religieux. Ils font pour autre chose. Soit des buts politiques, soit des buts pour avoir un aura ou chercher autre chose. Parce que celui qui croit en Dieu, qui est juif, qui est chrétien, qui est musulman, ne peut jamais prendre le manteau de la religion pour faire du mal à autrui. Parce que la vie est sacrée, on ne doit pas être violent quand on est religieux.
Alors, révérend Akmel, pourquoi, généralement, les gens utilisent la religion pour pouvoir être violents, pour pouvoir être dans l'extrémisme?
Initialement, dans le plan divin, l'homme n'est pas fait pour dominer sur l'homme, mais l'homme est fait pour dominer sur la nature. Et cela, nous le trouvons dans le texte de la création, dans Genèse, le premier chapitre, verset 28. Et Dieu dit de dominer sur la nature.
Par la suite, nous rendons compte que les gens veulent dominer sur les autres par tout simplement besoin d'être loin de Dieu.
La parole de Dieu nous invite à rechercher d'abord la paix avec les autres. La paix avec les autres. Et ce n'est pas la guerre qui apporte la paix, c'est notre comportement de tous les jours qui peut nous amener à la paix et à la réussite. Et Dieu nous invite donc, si cela dépend de nous, nous avons donc une volonté, nous avons donc un devoir, nous avons donc une action à mener afin que nous soyons en paix avec les autres. Alors, pourquoi les gens sont violents?
Ils sont violents tout simplement parce qu'ils pensent ne pas être compris. Ils pensent ne pas être compris. Ils pensent aussi que tout se résume à eux et que la voie qu'ils ont choisie est la meilleure. Or, ce n'est pas la voie la meilleure. Tout à l'heure, vous avez entendu l'imam en dessus. L'ensemble des religions, nous trouvons que ce qui est important, c'est d'être ensemble et chercher d'abord la volonté de Dieu. Et cette volonté n'est que la paix pour chacun.
Imam Moufoué Kouassi, est-ce que ce n'est pas une question de guerre de religion, entre guillemets?
Vous savez que dans ce monde contemporain, nous avons trois domaines dans lesquels il y a beaucoup de passions. Nous avons la politique, le football et la religion. Et dans le milieu religieux, souvent on a beaucoup de suivisme à l'aveugle. On a beaucoup de suivisme à l'aveugle, on a le fanatisme, et puis il y a la passion. Comme l'imam le disait, vous voyez, une religion, aujourd'hui, il y a la pratique religieuse, souvent par hérédité. Je disais par exemple comme ça, si vous voyez un frère chrétien et que vous l'appelez Moussa, il va tiquer, il va se braquer. Si vous voyez un frère musulman que vous l'appelez Moïse, il va se braquer. Or, c'est une question de langue. Moïse, c'est en français. Moussa, c'est en arabe. Quand vous allez, par exemple, dans les pays arabes, les pasteurs, ils vont vous dire Allah. Ils vont vous dire Moïse. Ils vont vous dire Younous, qui est Jonas. Ils vont vous dire Issa, qui est Jésus. Ils vont vous dire Mariam. Donc, généralement, les gens font, au sujet du thème, beaucoup de suivisme. Et comme il y a beaucoup qui n'apprennent pas. Vous voyez, chez moi, par exemple, à Béomi, au centre, de façon naturelle, c'est le christianisme. Quand vous allez au nord, de façon naturelle, c'est l'islam. Donc, généralement, les gens viennent à la religion par hérédité. Comme les parents étaient musulmans, nous sommes musulmans. Comme les parents sont dans le christianisme, nous sommes dans le christianisme. Sans véritablement chercher à connaître la religion. Comme l'imam l'a dit, elle a dit, il faut le connaître. Il faut le connaître. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas l'adorer comme il se doit. Parce que même la tolérance religieuse, là, c'est une forme d'adoration. Donc, généralement, il y a beaucoup d'ignorants. Il y a beaucoup d'ignorants et il y a beaucoup de passions. Il y a beaucoup de passions parce que les gens ne cherchent pas à comprendre les messages véhiculés par les tests. Or, on cultive moins l'éthique des divergences, accepter les différences et autres. Donc, comme les gens savent ça, et c'est une question de doctrine, vous voyez qu'en politique, c'est l'endoctrinement. En termes de religieux, c'est le dogme, c'est la doctrine. Donc, c'est une loi établie et on ne veut pas chercher à comprendre. Et ce qui fait que, comme il y a beaucoup de passions qui s'expriment là-bas, donc, les gens utilisent sûrement, vous voyez que les plus grands conflits, généralement, c'est en football, en politique et en religion. Parce que c'est le lit de la passion.
Révérend Griffith, vous êtes homme de Dieu, vous encadrez. Certainement, vous avez eu connaissance de ces faits d'intolérance religieuse. Et généralement, quelles sont les causes, hein? Qu'est-ce qui fait que des hommes qui sont censés parler au nom de la même personne peuvent arriver à s'affronter et à être intolérants les uns avec les autres?
Osée 4, verset 6 nous dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Quand vous appartenez à une religion, il faut la connaître. Si tu ne la connais pas, tu vas aller dans tous les sens. C'est là la responsabilité des guides religieux que nous sommes. Dans les enseignements que nous donnons, il faut faire attention. Parce qu'on a parlé du radicalisme. Si on ne fait pas attention à ce qu'on nous donne à nos fidèles, ils vont prendre ça autrement. Et puis, bon, se comporter comme. Donc, il faut connaître. Les fidèles doivent se renseigner. Les guides religieux, eux aussi, doivent enseigner les fidèles. Afin que, quand je vois celui qui n'est pas de la même religion que moi, que je sache que c'est le même Dieu que nous suivons. Si je sais ça, il n'y a pas de palabre entre nous. Mais quand je dis lui c'est ça, bon, c'est ce qui amène ce. Parce que la religion traite du monde, hein. Donc chacun vient dans la religion pour nous détourner de l'objectif principal. Il faut connaître la religion que tu pratiques, de telle sorte que lorsqu'on te dit c'est comme ça, tu dis non. Moi, la Bible ou bien le Coran ne me dit pas ça. Moi, je pense que c'est ce qu'il nous faut.
L'imam, au cours de Brahma, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je voulais ajouter quelque chose. Comment c'est la religion qui s'est interpellée. Là, ce que je veux dire, je pense que les uns et les autres l'ont dit. En fait, il faut connaître Dieu avant de l'adorer. Parce que Dieu nous dit dans un verset du Coran, la Sourate 48, verset 5, « Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous a fait. Cherchez à vous surpasser les uns les autres par les bonnes actions. Il vous éclairera au sujet de vos différends. » Il aurait pu créer une seule religion, mais il ne s'est pas limité à ça. Il a créé trois grandes religions. Pour répondre à votre question, nous, on a eu la chance, avec notre plateforme, on a eu un financement de l'ambassade des États-Unis. On a fait pratiquement tout le Nord.
On a fait pratiquement tout l'Ouest. On a fait tout le centre. Et même au niveau d'Abidjan. Je pense que, en tout cas, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème entre les religieux. Sur le territoire ivoirien, il n'y a pas de problème entre les religieux, quelle que soit la ville où ils sont. Que la ville soit à dominance musulmane ou chrétienne, il n'y a pas de problème. Il y a une cohabitation pacifique entre les religieux en Côte d'Ivoire. Depuis 1994, il réside le Forum national de conférence de Côte d'Ivoire. Et un ensemble chrétien et musulman. Vous voyez, quand il y a des cérémonies à la cathédrale, moi je suis assis là, quand je suis à la mosquée, vous voyez les prêtres, les pasteurs qui viennent là. Donc il y a une cohabitation entre nous. Donc ça ne peut pas justifier qu'on soit extrémiste. Parce qu'il y a l'entente entre nous, dans tous les villages, tous les coins les plus reculés de la Côte d'Ivoire, tu verras que les religions sont ensemble.
Pasteur Akbe, vous voulez ajouter quelque chose?
Ce que je voudrais dire, en fait, le gros problème réside dans l'enseignement que nous donnons. Le problème inter, moi, ça ne m'inquiète pas. C'est le problème en intra. Lorsque un fidèle n'a pas suffisamment compris le message divin, en inter, il devient un danger. D'ailleurs, même en intra, parce que quand nous voyons d'abord les guerres religieuses, nous sommes rendus compte, avant même qu'on ne parle d'inter, nous avons vu tout ce qui est de la chrétienté et du catholicisme, en passant par le protestantisme, aboutissant au mouvement des réveils et tout ça. Mais ça, c'est à l'intérieur de la religion chrétienne. En voyant maintenant par la suite les guerres, que ce soit en Irlande du Nord, en Irlande du Sud, il y a eu des guerres. Mais ça, c'était vraiment en intra. Et tout simplement, voyons aussi, lorsque les gens sont allés dans le Nouveau Monde, il y a beaucoup plus d'évangéliques qui se sont retrouvés de l'autre côté. Aujourd'hui, vous avez aussi des mouvements qui sont issus des anciens mouvements de l'Europe, tels que les méthodistes unis et tout cela. Ils n'ont pas recours. Ça baisse en interne maintenant. Le problème, c'est que il faut que chacun comprenne que si je suis là, c'est pour me tourner vers Dieu et avancer vers Dieu. Eux non, m'attaquer.
Merci beaucoup, Pasteur Akmel. Avec vous, Docteur Flan Moké, nous allons vous permettre de nous dire de toutes les interventions qu'on a eues sur ce problème de l'extrémisme violent et du dialogue interreligieux. On a vu que ce qui a été mis en avant, connaître sa religion, ce qu'est la religion en elle-même, comment elle doit être pratiquée et ses rapports avec les autres, ça c'est de un. Deuxièmement, c'est la question de la formation des guides. Quel est votre regard sur cela?
Merci. Je pense qu'il y a, deux voies. Connaître sa religion, ça incombe aux guides religieux. Donc, c'est la responsabilité des guides religieux d'enseigner le contenu véritable de chaque religion. Si vous êtes un pasteur ou un prêtre et que vos fidèles n'ont pas la bonne connaissance de la parole de Dieu, eh bien, cela pose problème. Un imam qui se tient devant ses fidèles et qui fait des prêches, si ceux-là n'ont pas une bonne connaissance de la religion, ils deviennent dangereux pour eux-mêmes, ils deviennent dangereux pour leur religion, ils deviennent dangereux pour les autres. Donc, la formation, la connaissance de la religion est une responsabilité des églises et des mosquées, des lieux de prière, des cultes et tout ça. Donc, c'est la responsabilité des guides religieux. Alors, le deuxième élément, c'est relativement
à la formation du guide.
À la formation du guide. À la formation du guide, là, il y a deux voies qui s'ouvrent. La première voie, c'est que les religieux, entre eux-mêmes, à travers la mise en place des grandes centrales, peuvent concourir à la formation de guides religieux. Il y a aussi l'État, le système politique lui-même dans son organisation, peut prendre en compte cette responsabilité-là, peut porter cette responsabilité et aider, concourir à la formation des guides religieux. On a vu, par exemple, je prends l'exemple du Maroc, où la formation des imams au Maroc fait aujourd'hui référence, et il y a beaucoup d'horizons qui envoient les imams se former à l'école marocaine, si je puisse m'exprimer ainsi. Donc, l'État peut concourir à cela et également les différentes confédérations. Si je prends par exemple le Conseil national islamique, je prends le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Ce sont des organisations qui peuvent aider à la formation des imams.
Ou même Kouassi, quel comportement le fidèle ou le guide religieux doit adopter donc pour faire barrage à l'extrémisme?
Il nous dit dans le Saint-Coran, Dieu dit dans le Coran, vous avez dans le messager de Dieu le modèle à suivre. Donc le comportement du musulman, normalement, ça se réfère au Coran et à notre prophète. Alors je prends des faits. Au temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, quand il annonce le message de l'unicité du monothéisme, comme tous les prophètes l'ont fait, Abraham, Noé, Jésus, tous les autres prophètes, alors il est chassé par son peuple. Alors lorsqu'il arrive à Médine, il arrive à conquérir la ville de Médine, mais il arrive, il trouve des Juifs. Et il dit aux Juifs que vous, il était le tout-puissant de la cité. Il dit, vous les Juifs, on va vous gérer selon la Torah, selon votre livre. On va pas régler vos contentieux, vos problèmes ou votre mode de vie en fonction du Saint-Coran, mais en fonction de votre livre. Et deuxième chose, un jour, il reçoit des chrétiens dans sa mosquée. Des chrétiens qui arrivent dans sa mosquée et l'heure de la prière arrive. Ils veulent faire une prière et ils demandent la permission au prophète Mohammed de se retirer. Et le prophète leur dit non, restez dans la mosquée pour faire votre prière. Vous voyez? Donc ça, c'est des enseignements que les guides doivent véhiculer pour dire que voilà, c'est Dieu qui guide. Voilà pourquoi en islam, généralement, on demande aux gens de ne pas se confier à un homme, se confier à Dieu, parce que c'est Dieu qui guide. On a vu l'exemple de Noé. Noé n'a pas pu changer son fils. Voilà, donc c'est Dieu qui guide. Donc quand on véhicule des messages comme ça, je crois que l'imam doit prendre pour référence le prophète, qui lui-même, il donnait l'exemple. Et puis les fidèles aussi vont se conformer à l'exemple du guide.
On va revenir avec vous, révérend Griffith. Dans ces explications, on voit que ce qui vient en avant, il y a la question du dialogue. Le dialogue entre les religieux, le dialogue entre les guides. C'est important. Ce dialogue qui doit se faire entre les religieux, les guides et les fidèles, comment ça doit se présenter? Comment on doit organiser ce dialogue-là?
Effectivement, le dialogue occupe une place de choix entre les religieux. Je vais prendre un exemple. À Djoukoué, on a une plateforme là-bas. Quand vous entrez à Djoukoué, il y a un quartier, c'est le nom que je cherchais, j'ai oublié. Mais un quartier qui est habité en grande partie par les non-malinqués. Et à la sortie de Djoukoué, vous voyez Guiglo, il y a un autre quartier qui est à forte consonance malinqué. Donc, quand il y a eu un problème là-bas, l'imam Doumbia, qui a même été félicité par la grande chancellerie comme un homme de paix, on l'appelle l'arabe, il a pris le prêtre de là-bas. Ils sont partis, ils ont dit qu'ils vont venir dans le quartier où les malinqués habitent. Mais les jeunes n'étaient pas d'accord. Que le prêtre là vient faire quoi ici? Si tu viens ici avec lui. Donc un matin, il est parti avec lui. Quand ils l'ont vu là, quand ils ont vu le prêtre, selon ce que le prêtre même a dit, c'était pas un amusement. Mais il les a calmés. Mais si on ne se parle pas, si nous les religions ne se parlent pas, et vous, nos fidèles, c'est pour vous dire qu'entre nous, il n'y a rien. Et regardez notre exemple. Et il se lève encore et puis il part dans le même quartier où il y a les guéris sont nombreux. C'est le même échauffement. Pourquoi il vient là-bas, l'imam va là-bas. Quand ils sont partis, c'est le prêtre qui a parlé. Pour vous dire que nous marchons ensemble. Donc, il n'y a rien entre nous. Donc, c'est ça le dialogue. C'est comme ça, on devait enseigner ça à nos enfants, à nos fidèles. Il faut que de temps en temps, qu'ils nous voient ensemble. Même si on n'est pas de la même religion, qu'ils nous voient ensemble. Qu'on mange ensemble, que je vais à la mosquée, je vais fréquenter les imams, que les imams viennent me rendre visite. Et quand ils vont nous voir ensemble, ils vont dire que, mais en fait, nos devanciers sont ensemble. Donc nous aussi, nous devons nous mettre ensemble. C'est ça qui va booster le dialogue interreligieux.
Révérend Akmel, merci sur cette question.
Je veux donner des exemples de mon vécu quotidien. Je vais à Jérusalem en pèlerinage, et puis ensuite on descend en Égypte, et puis on va à Horeb. Nous montons. Arrivé au sommet, il est 3h, 4h du matin, il fait un froid. On touche la porte de la chapelle, elle est fermée. On touche la porte de la mosquée, elle est ouverte. Je pousse, je rentre, les autres, mais c'est la mosquée. Il dit, mourir de froid dehors. On dit, aïe. Je dis, mais c'est un lieu de culte. Donc, je suis rentré et les autres pasteurs m'ont suivi. Nous avons prié, il n'y avait même pas de musulmans, mais la porte était ouverte. On a prié, on est ressorti. De deux, je suis allé un jour, là, à Abidjan. On va à un enterrement. Et puis, on arrive à Williamsville, il se met à pleuvoir. Quand vous rentrez dans le cimetière, sur votre gauche, vous avez une esplanade, un coin qui a été bâti par les musulmans. C'est sur votre gauche quand vous avancez. Il pleut. Alors, tous les chrétiens qui étaient là étaient sous la pluie. Je suis arrivé dans ma voiture.
J'ai trouvé les gens, je me suis gardé, je suis descendu. Ils m'ont regardé bizarrement. Mm-hmm. Je suis allé sous le préau. Ils m'ont dit, mais pasteur, j'ai dit, restez sous la pluie. Ils ont dit, ah, donc on peut y aller. J'ai dit, d'abord, la première des choses, c'est l'humilité de comprendre qu'est-ce qui est bon pour moi et dans mon adoration. Je n'ai aucun problème avec les musulmans. Mais ce que je sais dans la Nouvelle Alliance, dans l'Épître de Paul à Timothée, la deuxième Épître, chapitre 3, verset 16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu pratique de bonnes œuvres. Donc, tout ce que je dois faire, le problème auquel on est confronté, c'est que nous restons seulement à la religion. Si nous voulons être sauvés, nous devons aller au-delà. C'est-à-dire, j'ai une relation avec Jésus-Christ, ils ont une relation avec Mahomet. Les enseignements qu'ils donnent sont des enseignements qui nous amènent à nous rapprocher de Dieu et entrer au paradis. Donc, moi, je me dis, il faut que je m'attache et il faut que je respecte les autres premières des choses. Je dis souvent à rien, je dis, je me mets en mode humilité comme à la canne. Et puis ensuite, je commence à pratiquer de bonnes œuvres, de telle sorte que l'autre qui est en face de moi, je puisse l'accepter comme tel. Je connais, je sais un certain nombre de choses qu'il n'aime pas, je ne vais pas aller le lui donner. Et je dois instruire mes fidèles de telle sorte qu'ils respectent, aiment les autres.
Imam connaît vraiment sur cette préoccupation. Alors comment on peut créer les conditions du dialogue entre les religions?
Merci Benny. Je pense que les uns les autres ont dit, le dialogue existe entre les religions en Côte d'Ivoire. Moi, je suis parti aux États-Unis avec un prêtre catholique. On a passé 45 jours. On a fait 7 États. J'ai passé les États, Atlanta, Philadelphie, Washington, Dallas, tout ça. Mais les gens étaient étonnés de nous voir. Je pique dans l'assiette, ils piquent dans mon assiette. C'est-à-dire, on est tellement en train de manger ensemble. Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais c'est ça la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une grâce que Dieu a fait à la Côte d'Ivoire. Donc le problème du dialogue ne se pose pas en Côte d'Ivoire. Les religions en Côte d'Ivoire sont ensemble. Mais la question que tu as posée avant, qui est très fondamentale, qu'est-ce qui pousse les gens à aller vers l'extrémisme, qu'ils soient violents ou pas, qu'ils soient religieux ou pas? Parce que la Côte d'Ivoire, il faut le dire, il a plus de 80% religieuse. Mais nous avons la chance en Côte d'Ivoire, parce qu'au moins les religions en Côte d'Ivoire, il y a 3 jours de prière dans la semaine. Les dimanches, les samedis et les vendredis. Ce sont des lieux où dans les temples, dans les églises, dans les mosquées, nous parlons aux gens. Et tout à l'heure, on parlait de formation. C'est ça, c'est-à-dire que c'est ce qui manque. Il faut qu'on forme les gens. Parce que l'imam, au fond, il avait dit, souvent on vient aux religions par mimétisme. Mon grand-père était catholique, donc je suis catholique. Je ne savais pas comprendre la religion. Alors que Dieu a dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Donc, en matière de formation, ça c'est très important. Il faut que vraiment, nous-mêmes les religieux, les guides, qu'on puisse former nos fidèles. Et donc, on a ces 3 jours de prédication dans la semaine, qui sont les 3 jours officiels que nous avons. Mais en dehors de ça, par exemple, nous, c'est 5 fois par jour. 5 fois par jour, c'est pas seulement le vendredi. Mais le vendredi, c'est où il y a beaucoup plus de monde. C'est le coin où il faut donner le message. Voilà. Et donc, nous, en tant que guide religieux, on doit former nos fidèles dans les temples, dans les mosquées et dans les églises. Mais pas seulement là. Parce qu'il y en a qui sont chrétiens, qui sont musulmans, mais qui ne vont pas forcément à la mosquée. Mais dans leurs grains, il faut aller vers eux pour les former. Parce que toutes ces religions, j'ai dit, enseignent la tolérance. Dans les dogmes, c'est la tolérance. Donc, si on a compris notre religion, on ne peut pas être violent.
Alors, docteur Floyd Mouquet, on va parler des conditions du dialogue. On a vu, les problèmes ont été connus, des pistes de solutions ont été ébauchées. Quelles sont les conditions qu'il faut créer pour que ce dialogue-là puisse se faire? Quelles sont les conditions qu'on doit mettre en place pour pouvoir faire régner l'harmonie? N'oublions pas que nos pays aussi sont des carrefours où les gens vont, ils viennent. Il n'y a pas que seulement les habitants de Côte d'Ivoire, il y a les gens de la sous-région, les gens viennent de partout. Qu'est-ce qu'on doit faire?
Merci beaucoup Ben Diakité. Je crois comprendre votre question comme étant orientée vers la question du dialogue interreligieux, la tolérance interreligieuse. On l'a dit, le dialogue interreligieux, c'est l'acceptation de l'autre religion, c'est le respect de la foi de l'autre. Et il y a des efforts qui ont été faits par les religieux, par donc les guides religieux, mais aussi par les communautés, pour rapprocher les différentes religions. Imam Brahima Kone a fait cas, pasteur Junon aussi en a fait cas tout à l'heure. Et je pense que de façon concrète, il faut certainement aller au-delà. aller au-delà, c'est vrai que je donne l'exemple du dialogue islamo-chrétien qui existe, qui est une plateforme qui existe. Il y a le forum des confessions religieuses qui existe également. Mais je pense qu'il faudrait aller au-delà, de sorte que les religions se rapprochent davantage. La première chose à faire, de mon point de vue, c'est de déterminer des centres d'intérêt, communs pour faire converger les religions vers ce point de vue. Cela peut être en dehors des questions religieuses. Ça peut porter sur une question, disons, peut-être les questions de pauvreté. Ça peut être sur des questions de climat. En tout cas, là où toutes les religions peuvent se retrouver, tout creuset qui puisse faire fusionner les religions, ça concourt au rapprochement entre les religions. Le deuxième élément, c'est pour promouvoir le dialogue interreligieux, il faut faire en sorte que les différentes confessions religieuses rassemblées soit au niveau d'un forum, soit au niveau de n'importe quelle plateforme qui s'engage dans le dialogue interreligieux, il faut que les projets de développement soient des éléments également forts qui cristallisent le dialogue entre les religions. Au Burkina Faso, avant la période trouble que ce pays est en train de connaître, on voit bien que le dialogue interreligieux a atteint un certain niveau. Les confessions religieuses sont à la recherche même de financement en vue de la réalisation des projets de développement. Cela peut être des projets qui permettent même à ces différentes confessions d'avoir beaucoup plus d'autonomie en matière financière, etc. Et ça peut être des projets de développement au sens simple du terme. Donc voici deux éléments, deux leviers qui, de mon point de vue, peuvent concourir à la promotion du dialogue interreligieux.
Imam Oufoué, on va venir avec vous. Vous avez écouté l'enseignant-chercheur, le président du centre Serpa d'Abidjan, nous donner des pistes de réflexion. Je dis, il faut aller au-delà du discours du religieux. Il faut aussi s'intéresser aux problèmes de tous les jours. Trouver de l'emploi, trouver des activités communautaires, faire ensemble. Que c'est des choses qui renforcent la solidarité, l'entente entre les religions. Vous qui êtes guide religieux, est-ce que vous avez ces approches-là avec les autres, notamment les chrétiens ou bien d'autres? Est-ce que vous vous mettez ensemble pour faire des activités communautaires?
Concrètement, mm-hmm. dans une perspective générale, hein, mm-hmm. voilà, il y a des cas isolés mm-hmm. et d'activités communes. Mais généralement, ce que je souhaite, comme le professeur l'a dit, voilà, c'est de créer des espaces sûrs où on va concevoir ensemble, parce que c'est une réalité. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a des actions de façon isolée, mm-hmm. mais il n'y a pas une action concertée de façon nationale. Mm-hmm. Vous avez parlé tout à l'heure du COSIM, mm-hmm. ou du Conseil des évangéliques, mm-hmm. ou du Conseil des catholiques. Généralement, se mettre ensemble et puis réfléchir sur ces genres d'actions. Moi, je veux parler aussi d'écoute active. Il faut encourager l'écoute active. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez parlé de dialogue interreligieux. Mais souvent, c'est vrai qu'on le dit, il ne faut pas qu'on ait la langue de bois. Souvent, le message qui est véhiculé dans les églises et dans les mosquées, souvent, participe à susciter la méfiance. Parce que, comme vous l'avez dit, il faut créer des cadres d'écoute et d'échange. Il y a beaucoup de points sur lesquels nous sommes unanimes. On a vu tout dernièrement le phénomène de l'homosexualité. Ça, toutes les religions la rejettent. Mais vous voyez que quand le problème s'est posé, il n'y a pas eu une déclaration commune des religieux. Hein. Aujourd'hui, on a le phénomène de la drogue. On a le phénomène de grossesses en milieu scolaire. On a le phénomène même du chômage, comme vous l'avez dit, de la lutte contre la pauvreté. Parce que toutes les religions ont lutté contre la pauvreté. Le prophète de l'islam a fait de ça un cheval. Des méthodes de lutte contre la pauvreté, c'est là qu'il a instauré la zakat, où on prélève 2,5% des bagnes pour mettre ensemble et pour donner aux nécessiteux. C'était pour lutter contre la pauvreté. Après cela, il faut aussi impliquer les leaders religieux, de premier plan. Comme le pasteur l'a dit, les voir ensemble. Les voir ensemble, pas les voir ensemble physiquement, mais les voir ensemble de cœur. Qu'ils soient ensemble de cœur, qu'ils soient ensemble dans l'âme. Et puis, il faut utiliser des thèmes communs. Il faut identifier des thèmes comme la cohésion sociale. On peut choisir un thème comme la cohésion sociale qui est abordé dans toutes les mosquées, en une journée, dans toutes les églises, le dimanche. C'est des thèmes comme la paix, la fraternité, l'éthique des divergences. Parce que ça, l'éthique des divergences, c'est des choses qui sont pas beaucoup enseignées. Et puis, il faut organiser des événements interculturels, comme vous l'avez dit. Ça se fait pas. Il y a des événements interculturels qu'on peut regarder ensemble et puis organiser. Ça peut nous rapprocher. Généralement, quand vous prenez dans des cités, et dans des quartiers, on a des églises, on a des mosquées, on peut organiser, par exemple, récompenser les meilleurs élèves, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Dans une cité où les parents se mettent ensemble, initient des activités, c'est des choses qu'il faut développer. Et puis, il faut promouvoir l'éducation. L'éducation, et amener les gens à comprendre. Parce que c'est sûr, souvent, des détails qu'on ne se comprend pas, mais vous savez que l'adultère, la fornication, la drogue, la prière, généralement ces messages-là sont les mêmes messages. Quand vous prenez en islam, il y a un chapitre par exemple qui parle de la naissance de Jésus, qui parle de la naissance de... Même le prophète de l'islam, lorsqu'il parlait à ses fidèles, il prenait des exemples de Jésus, il prenait des exemples de Moïse. Il prend des exemples de Noé, il prend de ces exemples. Donc, il faut pouvoir enseigner cela. Et puis, je crois que si on s'engage dans cette perspective, je crois qu'on va plus unir le cœur. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les religieux sont unis, il n'y a pas de problème, mais on est unis physiquement, mais en réalité, on n'est pas encore unis dans le cœur.
D'accord. Merci beaucoup, amis auditeurs. Vous êtes en train de suivre l'émission Démocratie en progrès. Et dans le cadre de cette émission, nous parlons de la tolérance interreligieuse, un atout dans la prévention et l'extrémisme violent. Et j'ai pour invité l'imam Kone Ibrahima et le pasteur Zunon Didier Griffith, membre de la plateforme nationale du dialogue interreligieux contre l'extrémisme. J'ai également sur le plateau l'imam Kwasi Waoufoué de la mosquée du cercle des rails du plateau. J'ai également sur mon plateau le pasteur Aka Akmel Marcelin de la Fondation Évangélique Victoire Temple El Bethel et docteur Flan Moke César, directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan. Merci beaucoup à vous, chers invités, mais je vais vous permettre de vous prononcer sur les auditeurs qu'on a eus, parce qu'ils ont exprimé des préoccupations. Vous allez écouter leurs préoccupations et vous allez réagir. Donc,
Clara D'Acosta, à l'Université populaire de Côte d'Ivoire. Comment la tolérance interreligieuse doit-elle se manifester?
Étudiant Baudelaire Kofi, à l'Université Félix Foué-Boigny de Cocody. Au nom de la tolérance interreligieuse, doit-on accepter les mariages interreligieux? Ne doit-on pas dire que telle ou telle religion est fausse ou que telle ou autre est vraie?
Ange Christelle à Strathmore University au Kenya. La tolérance interreligieuse suffit-elle à elle seule à prévenir l'extrémisme violent?
Alors, chers panélistes, vous avez entendu les questions. L'imam Kone Ibrahima va vous permettre, vous, de vous prononcer.
Merci beaucoup. Je pense que je l'ai dit tant au début que si Dieu l'avait voulu, c'est un verset du Coran, il aurait fait de tout le monde entier une seule communauté, une seule religion, mais il a fait trois religions. Donc, je pense que nous devons vivre ensemble. Et la tolérance se manifeste par le fait que j'accepte que mon voisin pratique sa foi comme il veut, que mon frère... Même sang, on peut être de régions différentes, il n'y a pas de problème. Voilà, donc l'accepter que chacun pratique sa foi. Et on doit respecter la foi des autres. Voilà, parce que je l'ai dit, surtout en tant que musulmans, nous, l'islam est la dernière religion révélée. Donc nous devons respecter toutes les religions qui sont passées avant nous. L'imam l'a dit tout à l'heure, le prophète Mohammed, il parlait chaque fois de Jésus. Et vous avez vu la mère de Jésus, qui s'appelle Mariam. Il y a, dans le Coran, il y a une sourate qui est dédiée à elle, à la mère de Jésus. Il y a une sourate qui est dédiée aux femmes. Et rien qu'aux femmes. C'est-à-dire, c'est une sourate où on ne parle que des femmes. C'est-à-dire de l'importance des femmes. C'est pourquoi la femme est très précieuse. Donc, je pense qu'on doit accepter que chacun puisse pratiquer sa foi, en tout cas, comme il le souhaite.
Révérend Akmel, vous voulez dire quelque chose sur ces questions-là, les mariages interreligieux? Est-ce que ça doit être analysé sous l'angle de tolérance religieuse?
Moi, je vis cela au quotidien. J'ai deux de mes fils qui ont épousé des musulmans. Ils ont fait un choix et
ils doivent respecter le choix de la religion de leur femme. Ils sont restés chrétiens, leurs femmes sont des musulmanes et ils doivent vivre de telle sorte que nous leur avons dit une chose à la base. Si vous entrez dans cette histoire d'être ensemble, vous ne devez pas nous servir le divorce parce que ce n'est pas de Dieu. Le premier, j'étais pas là. Le deuxième, j'étais à la mosquée. Donc, pour moi, c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Mais c'est comment j'approche ma belle famille. Comment je me prépare. Comment est-ce que je prépare mes enfants à cela et savoir que ça ne sera pas facile de pouvoir vivre
ainsi parce qu'il y a d'autres personnes qui n'auront pas compris. Mais là encore, ça va. Est-ce que vous savez que dans le milieu chrétien, il y a des personnes qui disent « Non, lui-là, il n'est pas évangélique, donc tu ne peux pas l'épouser. Mmh, » ouais, ou « Celui-là est catholique, donc et ainsi de suite. » Donc, ce qui est important, et je vais terminer là-dessus, donc le mariage, pour moi, ce n'est plus un problème. La deuxième des choses, c'est que prévenir l'extrémisme, c'est de pouvoir enseigner et parler tous les jours à ses fidèles pour dire que, comme les imams le disent tout à l'heure, on parle de Marie, on parle de Jésus, on parle... La première fois où moi j'ai ri, c'est que j'avais invité un pasteur qui est venu. Non, je ne l'ai même pas invité, il venait de Bamako. Il était venu pour une formation. Il arrive chez nous, on était contents, on l'accueillit. On dit, bon, qui disait moi? Il monte à la chaise et dit, salam alaikum. On était tous muets. Il dit, je dis salam alaikum. Parce que salam alaikum, pour nous, c'est musulman. Il vient faire quoi ici avec son salam alaikum? Il dit que la paix de Dieu soit avec vous. On dit amen. Il dit salam alaikum. On dit amen.
C'est ce que ça veut dire.
Mais c'était donc, la salutation
donc,
de Jésus.
Donc, c'était ce que nous devrions pouvoir faire. Enseigner, toucher à un certain nombre de choses. Je voudrais dire que ce qui me paraît le plus important, ce n'est pas la tolérance, mais c'est l'amour. Parce que si nous avons le message de l'amour, le problème de la tolérance ne se poserait pas du tout. Quand nous regardons, nous voyons que l'amour accepte, l'amour n'envie pas, l'amour supporte tout. Quand nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8, on voit toutes ces choses. Tandis que dans la tolérance, tu as oublié de te battre pour accepter l'autre. Mais quand tu aimes, tu n'es plus obligé. Ça fait partie de ta nature. Ça fait partie de ta vie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, révérend Akmel. On va donner le micro maintenant à l'imam Oufouéwa Kouassi.
Par rapport à la tolérance, elle doit se manifester par l'acceptation de l'autre, l'acceptation des différences. Voilà, et puis connaître sa religion. Moi, j'ai vécu des cas. Comme moi, ma famille est chrétienne. Donc, on a été confrontés. Souvent, ils m'ont approché. Ils étaient d'un coup où pendant le mois de le 1er janvier, Saint-Sylvestre, nos frères chrétiens qui habitent la même cour ont préparé. Ils sont allés donner à une famille musulmane, mais qui a versé les repas dans la poubelle. Et eux aussi, ils reçoivent maintenant, le jour de la tabassie, ils reçoivent la nourriture et ils m'appellent conduite à tenir. J'ai dit, mais vous mangez parce que... Mais j'ai approché la famille et quand j'ai expliqué, ils ont compris qu'ils faisaient fausse route. Voilà, on dit une viande qu'on adore, on donne un fétiche. Il dit, vous les avez vus adorer fétiche. Ils vont chaque jour à l'église ici. Donc, c'est accepter l'autre. Maintenant, relativement au mariage, comme vous savez, l'islam a une particularité, comme je l'ai dit. Dieu dit dans le Coran, vous avez dans le prophète de Dieu le modèle à suivre. Et vous savez, le mariage, c'est un sujet beaucoup sensible. En islam, le mariage, c'est une adoration. Dieu nous dit, par exemple, dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Dieu, en ce qu'il leur a commandé et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. » Et le prophète dit, « Chacun de vous est responsable de sa famille. Le père est responsable de sa famille comme le berger est responsable de son troupeau. » Vous savez, Jérben, le mariage là, pour pouvoir vivre ensemble, il faut une compatibilité spirituelle. Il faut une compatibilité intellectuelle. Il faut une compatibilité de conception. Alors, concernant le mariage mixte, nous, on regarde toujours dans la vie du prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des mariages, il a épousé une juive et une chrétienne. La juive, c'était sa fille, et la chrétienne, c'était Maria la Copte. Donc, nos savants disent quoi? Le mariage mixte, on appelle ça le mariage mixte. Le mariage d'un homme musulman avec une femme juive ou chrétienne, elle est autorisée, mais souvent avec des réserves. Parce que vous voyez, nous, on est un peu juste. Le pasteur l'a dit. Vous voyez, quand il y a un mariage mixte, la problématique qu'on se pose, on n'a pas de problème avec. Mais les enfants seront éduqués dans quel dogme? Vous voyez? Et souvent, ça crée beaucoup de points d'achoppement. Donc, souvent, comme on le dit, si le monsieur est ancré, c'est un musulman pieux, la femme est une chrétienne pieuse, vous voyez qu'il y a une guerre, généralement, au niveau de l'éducation, qui va se créer. Donc, généralement, on met beaucoup de réserves. Sinon, l'islam autorise le mariage entre le musulman et la chrétienne ou la juive.
Docteur Flan Mokier, pour parler cette fois-ci de la dernière préoccupation qui avait été soulevée par l'étudiante Ange Christelle de l'Université du Kenya, qui demandait, est-ce que dans la lutte contre l'intolérance religieuse, est-ce que la tolérance interreligieuse seule suffit pour pouvoir donc contenir ou prévenir l'extrémisme violent?
Alors, si nous émettons cette hypothèse, c'est-à-dire la tolérance interreligieuse suffit à prévenir, à elle seule, à prévenir l'extrême violence, ça suscite deux choses. Premièrement, c'est que c'est l'intolérance interreligieuse qui est à l'origine de l'extrémisme violent. Alors que nous savons qu'il y a d'autres facteurs qui sont à l'origine de l'extrême violent, par exemple la pauvreté, la marginalisation, l'injustice et tous ces éléments. C'est la première chose. Dire aussi que la tolérance interreligieuse suffit à elle seule à prévenir l'extrémisme violent, cela veut dire que ce que nous voyons aujourd'hui, toute la manifestation de cet extrémisme violent repose sur la religion. Ce qui n'est pas exact. Parce qu'on voit bien, et cela me permet de répondre à la question que vous avez posée, pourquoi les extrémistes habillent la religion? Je dirais simplement que ce qu'ils poursuivent, ou ce qu'ils font en réalité, ils ont entre leurs mains un projet politique. Et ce projet politique-là repose sur une idéologie, sur des idéologies. Et on sait bien que dans l'idéologie, il y a deux éléments. Il y a les objectifs qui sont importants, ce qu'on recherche, les objectifs, et puis les moyens qu'on se donne pour atteindre ces objectifs. Ici, si la religion était véritablement le problème, on ne comprendrait pas pourquoi ces extrémistes-là chercheraient à tuer d'autres musulmans. Parce qu'ils ciblent des musulmans au prétexte que ce ne sont pas des bons musulmans. Le problème, ce n'est pas une question de religion. Je veux tout simplement dire que la tolérance religieuse, à elle seule, ne peut pas suffire à prévenir l'extrême violent. C'est important, mais ce n'est pas suffisant.
Imam Kone Ibrahima.
Quand on voit l'extrême violent, l'extrémisme, ce n'est pas lié à une religion. On l'a dit. Je l'ai dit au départ, parce qu'aucune des religions n'enseigne la violence. Donc celui qui, au nom d'une religion, dit que lui, il va atteindre l'objectif, non, ce n'est pas à cause de la religion. Certainement, c'est des fins politiques, c'est des fins sociales ou autre chose. Alors donc, la tolérance ne suffira pas. Il faudra certainement avoir d'autres arguments. Mais je pense que nous, ce que nous faisons, ce qui est important pour nous, c'est la formation. Et nous allons former nos fidèles pour qu'ils ne soient même pas tentés par ce phénomène-là. Bon, c'est parce qu'on n'a pas les moyens, sinon on veut faire beaucoup de choses. Pour éviter toutes ces choses d'extrémistes, tout ça, il faut trouver des agents. C'est des activités journalistes de revenus. Parce que la plupart des gens qui vont passer cette voie-là, c'est des gens, bon, comme j'ai dit, ils se sentent dismisés, ils n'ont plus rien, ils n'ont pas travaillé, tout ça, c'est quoi, ils font ça. Et Dieu merci, avec l'ambassade des États-Unis, en Côte d'Ivoire, nous, la PNDIV, on a eu un projet sur le Tchogolo, le Tchologo et puis le Bonkani, où on allait créer des plateformes de femmes. C'est-à-dire qu'on a regroupé toutes les femmes, parce que là-bas, il y a un problème autochtone et halogène, surtout les pelles, tout ça. On les a regroupées. On a créé des plateformes dans 4 localités qui sont très, très importantes. Et grâce à l'appui de l'ambassade des États-Unis, on a pu leur trouver des moyens pour faire des cultures vivrières. Ils ont demandé à faire des cultures vivrières, à planter du riz, tout ça. Et ça, on l'a fait pour les femmes. On est en train de lutter maintenant pour faire pour les jeunes aussi. Si tous ceux-là sont occupés à travailler, parce que c'est ce qu'ils vont penser à se laisser tromper par quelqu'un qui va venir dire, écoute, Ben, je te donne 500 000 francs avec une moto. Allez, va attaquer. Si tu meurs, tu vas au paradis. C'est fou.
Merci beaucoup, chers invités. Merci à vous tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est la fin de notre émission en débat sur le thème « La tolérance interreligieuse, un atout dans la prévention de l'extrémisme ». Et j'avais pour invité l'imam Kone Ibrahima et le pasteur Zounon Didier Krifit, membre de la plateforme nationale du dialogue interreligieux contre l'extrémisme, l'imam Kwasi Waoufoué de la mosquée du Sec des Rails, le pasteur Akpa Akmer Marcelin de la Fondation évangélique Victoire Temple El Bethel et Dr. Flan Moké César, directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan. Merci beaucoup et à très très bientôt.
Ce programme a été réalisé en partenariat avec l'ambassade des États-Unis.
Les grands débats. Radio de la paix.